5.
Chronique de l'OPC.
On va parler rénovation aujourd'hui à la chronique. On sait, hein, le printemps s'en vient et c'est généralement ce temps-ci de l'année qu'on planifie un peu nos beaux projets de rénovation. On se pose la question qui on va embaucher, comment s'assurer que nos travaux ne viront pas au cauchemar. Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur nous livre quelques conseils utiles avant d'engager un entrepreneur. Bonjour Charles.
Bonjour Anne.
Charles, l'idée de s'embarquer dans des travaux de rénovation, ça peut être anxiogène pour certains, mais il faut dire qu'on a tous entendu parler de travaux de construction ou de rénovation qui ont tourné au cauchemar. Est-ce que c'est un domaine plus problématique que d'autres?
Ben, c'est un des secteurs qui suscite le plus grand nombre d'appels à l'office. L'année dernière, par exemple, les services liés à la construction, la rénovation, ça a généré 7% des plaintes à l'office en troisième position au palmarès, derrière les secteurs de l'automobile et des appareils électroménagers.
Et quel conseil vous donneriez donc aux auditeurs qui sont là ce matin là, pour qu'ils évitent de se retrouver dans ce fameux 7% pour qu'ils trouvent un bon entrepreneur?
Alors oui, ben, sans surprise, pour obtenir le nom d'un entrepreneur de confiance, là, un des meilleurs moyens, ça reste de demander des références, des conseils à son entourage, à ses proches. On peut aussi consulter des listes d'entrepreneurs sur des sites d'associations professionnelles, de corporations ou encore des organisations qui font des recommandations en offrant un service de médiation. C'est le cas, par exemple, du CAA Habitation. Et il faut prendre garde à ceux qui s'annoncent dans les annonces classées ou sur Marketplace ou Kijiji, qui ne donnent pas leur adresse complète. On n'a souvent qu'un seul numéro de téléphone comme coordonnées. En cas de problème, vous pourriez avoir de la difficulté à retracer l'entrepreneur. On recommande aussi de faire, évidemment, des vérifications au sujet des commerçants qu'on a ciblés. Sur Internet, il y a le registre des entreprises qui peut être utilisé pour connaître le nom précis de l'entreprise en question et le nom de ses administrateurs. Ensuite, vous pouvez faire des recherches dans jugement.qc.ca, un répertoire de jugement, jugement au pluriel, pour voir s'il y a eu des poursuites contre cette entreprise-là ou ses administrateurs. Il y a évidemment la rubrique de l'Office sur le site web de l'OPC, du site de l'OPC, la rubrique « Se renseigner sur un commerçant » qui donne des infos utiles sur le commerçant en question. Et il y a le site de la Régie du bâtiment du Québec, bien entendu.
Parlant de la Régie du bâtiment, justement, quel est son rôle au juste?
Alors, la RBQ veille à la qualification des entrepreneurs. C'est elle qui délivre les licences d'entrepreneurs. Pour obtenir sa licence, la RBQ, l'entrepreneur doit verser un cautionnement, c'est-à-dire un montant d'argent qui sert à garantir ses obligations. C'est d'ailleurs un autre point essentiel pour le choix d'un bon entrepreneur, s'assurer que la licence de la RBQ est en règle et que c'est la bonne catégorie de licence, celle qui correspond au type de travaux qu'on a à faire. Alors, parce qu'il y a plusieurs catégories. Je suggère aussi de vérifier si l'entrepreneur a une assurance responsabilité civile. Ça peut être très utile s'il y a des dommages qui sont causés à votre propriété.
Charles, mais on dit que c'est plutôt l'entrepreneur, excusez-moi, qui nous choisit, qui vient cogner à notre porte pour offrir ses services.
Ouais, ben c'est les entreprises qui font du porte-à-porte pour vendre des travaux de rénovation, elles doivent détenir en plus de la licence, elles doivent détenir un permis de commerçant itinérant de l'OPC.
Oui. Et si l'entrepreneur maintenant se déplace chez moi à ma demande, est-ce qu'il a besoin de ce même permis-là?
Pour certaines catégories de travaux, oui. Ah. Normalement, non, si c'est vous qui l'appelez, il n'y a pas besoin de permis pour qu'il vienne. Il faut l'appeler spécifiquement pour ça. Faut pas qu'il y ait de prétexte. Mais pour certaines catégories de travaux, même si c'est vous qui l'avez appelé, ça reste du commerce itinérant. C'est le cas des secteurs de portes et fenêtres, isolants thermiques, toiture, revêtement extérieur. Alors, tous ces types de travaux-là sont classés commerçant itinérant dès lors que le contrat se conclut chez le consommateur. Mm-hmm. Et donc, à ce moment-là, il doit avoir son permis de l'OPC.
Parfait. À quoi sert justement le permis dont vous parlez?
Bon, le permis, évidemment, c'est pas un gage de compétence ou d'honnêteté. Par contre, ça implique que le commerçant a encore là versé un cautionnement à l'office, c'est-à-dire une somme d'argent qui peut être utilisée pour vous dédommager en cas de problème. L'autre chose concernant les vendeurs itinérants, on en a déjà parlé. Oui. Méfiez-vous de ceux qui annoncent sur Facebook. Mm-hmm. Vous devez remplir un formulaire pour avoir une subvention, une inspection gratuite. On voit aussi des concours pour gagner la rénovation de votre cuisine au complet ou 5 000 $ d'armoire de cuisine. Méfiez-vous si l'un d'eux vous dit que vous avez des travaux urgents à faire. Par exemple, on vous annonce que vous avez un gros problème de moisissure dans l'entretoit ou que le toit est à refaire. Faut jamais rien signer sur le champ. Demandez toujours une deuxième opinion d'un spécialiste. D'ailleurs, les bons entrepreneurs ont tellement de travail qu'ils ne s'annoncent pas sur Facebook, tout simplement.
Ouais.
Faut savoir que c'est maintenant interdit aux commerçants itinérants de vendre des travaux liés à des systèmes de chauffage ou de thermopompe, des travaux d'isolation ou de décontamination. Il y avait tellement d'arnaques dans ces créneaux-là que le gouvernement a décidé carrément
de les interdire.
Exact. Oui, tout à fait.
Puis, une fois qu'on a ciblé peut-être 3 ou 4 entreprises, ça dépend, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, l'idéal, c'est de très bien définir son projet. S'il y a lieu, vous faites un plan, surtout si c'est des grands travaux. Vous précisez vous allez savoir mieux où vous vous en allez et comment, combien ça va coûter ou un peu mieux. Vous devriez définir la nature des travaux, la qualité des matériaux, les exigences aussi pendant les travaux, les permis, qui s'occupe de ça, les déchets, la propreté, les délais. Soyez le plus précis possible. Il existe sur Internet des contrats types de rénovation dont vous pouvez vous inspirer. Il y en a, je crois, sur le site de la Régie du bâtiment du Québec. Remettez ensuite votre plan à 2 ou 3 entrepreneurs et demandez-leur une soumission écrite sur le coût des travaux et des matériaux. Ben, comme ça, on peut comparer des pommes avec des pommes et ça nous aide à prendre une décision éclairée. On ne s'arrête pas seulement aux prix qui nous sont soumis. Le moins cher n'est pas nécessairement le meilleur. Parfois même, ils sont moins chers, mais au bout de quelques temps, ils facturent des extras. Ils vous disent « Ah, ben ça va coûter plus cher, ça va coûter plus cher. » Faut considérer dans l'ensemble la confiance que nous inspire l'entrepreneur, sa feuille de route, ses références. Et en signant le contrat, ben on s'assure que toutes les promesses qu'on a faites verbalement, là, qu'elles sont bien inscrites aussi en noir et blanc sur papier. Le coût des matériaux, c'est un élément particulièrement important. Là, on a vu que il y a des entreprises, quand il y a des flambées du coût des matériaux, on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez ces temps-ci. Il y a des entrepreneurs qui veulent renégocier le contrat parce que là, les prix ont explosé. En principe, si un entrepreneur s'engage à tel prix, il doit le respecter.
Oh oui.
Dans la réalité, toutefois, vaut mieux pas trop forcer la note parce qu'un entrepreneur mécontent pourrait bâcler les travaux et vous faire finalement plus de tort que de bien. Alors, l'idéal, c'est toujours d'essayer de s'entendre et de renégocier au besoin. L'autre possibilité, ben, c'est qu'il vous laisse en plan. Hein, il dit « OK, à ce prix-là, je le fais pas ». Et là, vous serez gros gens comme devant. Mm-hmm. Les délais aussi, c'est important. Si vous avez un calendrier de réalisation précis en tête, faites-le inscrire au contrat. Vous pourriez peut-être même envisager des montants de pénalité en cas de retard. Faut pas hésiter à en discuter à tout le moins avec l'entrepreneur avant de signer. Les bons entrepreneurs sont très occupés et parfois sont trop occupés.
Exact. Maintenant, si je signe un contrat, Charles, avec un entrepreneur et que pour une raison ou une autre, je change d'idée, je veux annuler, est-ce que je peux faire ça?
Ben, dans le cas, si c'est clairement un contrat de commerce itinérant, on a 10 jours pour annuler, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les travaux ne peuvent pas commencer avant l'expiration du délai de 10 jours.
Okay.
Dans le cas où c'est, ce n'est pas du commerce itinérant, ben là, à ce moment-là, la LPC est muette là-dessus. On s'en remet au Code civil, qui dit qu'on peut résilier le contrat, mais que l'entrepreneur, en revanche, peut nous facturer des pénalités ou nous facturer les troubles, les dommages que ça lui cause. Alors, dans ce genre de situation-là, ça peut se dégrader, ça peut créer un litige, ça peut se retrouver devant le tribunal. Alors, s'il y a des gros montants en jeu, il est recommandé de s'informer de la situation précise auprès d'un conseiller juridique.
Et le meilleur moment, à quel moment on doit payer l'entrepreneur?
La loi ne le dit pas. Généralement, l'entrepreneur va demander un dépôt. Bon, idéalement, on n'en donne pas, mais on peut toujours en donner un, autant que ça ne dépasse pas 10 ou 15 % du montant total. Ça montre le sérieux des deux parties. mais évitez comme la peste des entrepreneurs qui vous disent, oh, moi, ça me prend 75 % de la facture avant de commencer, là, parce qu'il faut que j'achète les matériaux. Ça, c'est risqué. On a vu des gens perdre beaucoup de sous avec des plans comme ceux-là. Entendez-vous à l'avance avec l'entrepreneur sur un calendrier de paiement? Généralement, on paie par tranche de selon l'avancement des travaux. Là, si vous avez complété 40 % des travaux, ben, vous allez avoir 40 % de la facture. Et on prévoit aussi de pouvoir garder un 10 à 15 % du montant total à la fin. On garde ça pendant une dizaine de jours afin de s'assurer que les travaux, d'abord, sont conformes, il n'y a pas de problème caché.
Que tout a été bien fait.
Que tout est bien fait à notre goût. Mais aussi, on s'assure que tous les sous-traitants ont été payés. Les fournisseurs de matériaux ont été payés. Ça peut nous éviter le gros ennui, ennui qui s'appelle l'hypothèque légale de construction. Ça, vous ne voulez pas avoir ça.
Non. Des travaux de rénovation, on le sait, hein, c'est coûteux, puis c'est tentant de faire les travaux par, je ne sais pas moi, un cousin, beau-frère, une connaissance pour beaucoup moins cher ou même en dessous de la table. Qu'est-ce que vous en dites de ça?
Ben, au-delà du fait que le travail au noir, c'est illégal, il faut savoir qu'en cas de problème, ça peut nous mettre dans de sérieux ennuis. Vous pourriez vous retrouver sans aucun recours. Alors, c'est certain qu'on le déconseille.
Charles, comme à l'habitude, en terminant, on rappelle aux gens que si on a besoin d'un peu plus d'informations là-dessus, on peut vous contacter.
Oui, on a une section sur le site Habitation Rénovation à opc.gouv.qc.ca. Et on le disait, il y a le site de la Régie du bâtiment aussi qui peut être une bonne ressource. Mm-hmm. Il y a une association qui est trop peu connue, ça s'appelle l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction, ACQC, un bon site web. Puis il y a le site de la SCHL, bonne ressource également. Et puis pour l'office, ben, il y a toujours également le bon vieux téléphone, numéro sans frais, c'est le 1-888-OPC-ALLO.
Merci pour toutes ces informations, Charles Tanguay.
Merci à vous. Merci. Bonne journée et bonne semaine.
Nous aussi. Bye-bye.
Le matin, C-H-G-I.